No, it's the boy Dash all the way from Grenada and he tuned into C-Cut 90.3 FM.
Bonjour, bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, l'été, c'est bien la saison des festivals et les assouplissements sanitaires promettent de nous en mettre plein la vue et les oreilles. Plus de 60 artistes se produiront cette année au Festival acadien de Caraquet.
Il y a des soirées où on aura de 1000 à 2000 personnes dans le Carrefour de la Mer. Il y a des spectacles où c'est des petites salles à 250 places. Là où on aura le plus de gens, c'est deux soirs. D'abord, il y a le feu d'artifice qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de personnes habituellement. Mais aussi le Grand Tintamarre.
Il y a Plamondon, en Alberta, des fous d'histoire reproduisent à ciel ouvert un village de 20 maisons miniatures.
On a décidé, ça sera peut-être une bonne idée, de faire des mini-réplicas de ces bâtisses-là originelles pour qu'ils servent l'histoire, notre histoire.
Raconter l'histoire de la francophonie ontarienne via la bande dessinée, défi relevé par l'œuvre éclatant.
Nos jeunes explorateurs sont plongés à travers le temps. Ils partent à la mission, ils cherchent la force dans l'histoire franco-ontarienne. Ils revivent vraiment des aventures, des péripéties ou des moments charnières de notre histoire.
Il y a notre chronique Périscope, on fait une petite virée de l'actualité au pays. Bienvenue à Point de vue.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
La 60e édition du Festival acadien de Caraquet au Nouveau-Brunswick promet d'en mettre plein la vue. Les organisateurs qui ont confirmé la présence de près de 65 artistes du 5 au 15 août prochain. Les poids lourds de la chanson francophone y partagent l'affiche avec la génération montante. Le festival accueillera notamment le groupe 1755, dont on vous a déjà parlé ici. Lisa Leblanc, Maggie Savoie, La Patente, Edith Butler, Paul Piché, Rémi Boudreau, Zachary Richard, Chloé Bro et bien d'autres. Et les festivaliers vont se régaler. 40 des 65 spectacles seront gratuits. Le Festival acadien de Caraquet est au fil du temps devenu une référence musicale dans tout le pays et malgré un contexte économique particulièrement difficile, le Festival acadien de Caraquet demeure l'un des plus importants festivals francophones au Canada. Sébastien Beltrand s'entretient avec Carole Doucet, responsable de la programmation de la 60e édition du Festival acadien de Caraquet.
Bonjour Carole.
Bonjour Sébastien.
Alors, avant de commencer, je tenais à rappeler une petite chose. Il y a un mois, tu recevais une belle récompense aux East Coast Music Awards pour ton travail au profit de la musique et des artistes de la région atlantique. Alors, je voulais te féliciter tout d'abord.
Ah ben merci. C'est gentil de souligner ça. Ça fait toujours un velours, puis surtout d'être reconnu par ses pairs.
En tout cas, ton travail est remarqué par la communauté. Concernant le sujet du jour, c'est le Festival de Caraquet. Alors, parle-nous de l'événement et qu'est-ce qu'on va trouver pendant ces quelques jours?
Oui, c'est sûr que c'est un grand festival. Le Festival acadien de Caraquet, c'est un des plus grands festivals francophones dans les provinces atlantiques, dans toute l'Est du Canada. Possiblement un des plus grands festivals francophones à l'extérieur du Québec, dans notre pays. Puis cette année, c'est le 60e anniversaire, comme tu le disais. Donc, j'ai eu le bonheur d'avoir le mandat de programmer une soixantaine d'artistes. En fait, on est rendu, je pense qu'on va se rendre à 65, même 65 artistes et groupes. Ça ne comprend pas, évidemment, tous les musiciens qui accompagnent toutes les équipes techniques. Donc, c'est quand même quelques centaines de gens dans l'industrie de la musique qui vont recevoir un cachet de spectacle cet été. Donc, c'est quand même très, très important pour notre industrie. C'est un festival qui met beaucoup l'accent sur les artistes acadiens. Donc, il suit les carrières des artistes dès leur jeune âge. Souvent, les artistes acadiens qui vont passer à travers des événements comme Accro de la chanson ou le Gala de la chanson de Caraquet vont être pris au festival au moment où ils passent à travers ces concours et puis suivis tout au fil de l'évolution de leur carrière jusqu'à ce qu'ils deviennent des grands artistes qui coûtent cher. Donc, cette année, on a la preuve. On a des jeunes, comme justement la première soirée d'ouverture mettre en vedette Lisa Leblanc et Edith Butler, et qui sont justement des grandes dames de la chanson acadienne de deux différentes époques.
Bon, ben, avant de parler des artistes, je voulais juste revenir sur quelque chose qui, moi, me paraît important, surtout en cette période où on voit que le pouvoir d'achat chez les gens diminue. Donc, on apprend dans le communiqué de presse que 50% des spectacles seront gratuits. Et puis, pour ceux qui seront payants, c'est des tarifs abordables, réduits. Donc, voilà, quel était l'esprit de cet événement quand vous l'avez organisé? Et est-ce que ce n'était pas trop dur, justement, à pouvoir envisager un événement de telle ampleur à faible coût?
Bien, en fait, ce qui est vraiment intéressant, et tu as raison de le souligner, la moitié des spectacles sont offerts gratuitement, à l'extérieur, surtout dehors, devant le vieux couvent à Caraquet, en plein centre-ville. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle on réussit à avoir une programmation avec des tarifs, des cachets de spectacles moins élevés pour le public, c'est parce que Caraquet et sa région, il y a un appui mais absolument incroyable de la part de la communauté et aussi de la part des entreprises de la région. Donc, le président du festival, Paul Marcel, et son équipe, ils travaillent fort à aller chercher des sous auprès des entreprises locales. Et c'est vraiment impressionnant, le support reçu. Et cela permet justement d'offrir une quarantaine, sinon, de spectacles gratuits tout au long de la programmation du festival.
Juste par curiosité, donc, un événement de cette ampleur-là, combien de personnes ça brasse et quel budget vous avez prévu pour mener ces 10 ou 15 jours de festivités?
Je n'ai pas le chiffre exact, mais le budget, il me semble, du Festival de l'Acadie de Caraquet est à peu près 750 000 $. Donc, c'est quand même un impact majeur dans une localité qui n'est pas si grande. Mais on le sait tous, Caraquet est une des municipalités au Nouveau-Brunswick qui appuie le plus les artistes et les activités culturelles. C'est reconnu même à travers le pays comment cette ville appuie ses artistes. Donc, le festival a la chance d'œuvrer dans ce... Ben, en fait, la chance, mais c'est grâce à cette région, cette ville, que le festival a cette ampleur.
Alors, justement, concernant la programmation, donc, j'invite tous les auditeurs à se rendre sur le site internet de l'événement, puisqu'il y en a énormément. Donc, on retrouve notamment alors, les poids lourds 1755, Maggie Savoie, La Patente, Rémi Boudreau, Lisa Leblanc. Comment vous avez fait pour réunir tout ça? Et est-ce que vous avez des nouveautés aussi à annoncer?
Moi, j'ai le travail facile. J'ai le travail de d'appeler les artistes et de leur offrir des spectacles. Donc, c'est quand même assez intéressant comme boulot. Et puis, c'est très, très rare que les gens disent non. En fait, je pense que ce n'est même pas arrivé une seule fois cette année. Peut-être avec un conflit d'horaire, mais même à ça, je pense que cette année, tout le monde, on a réussi à rentrer tout le monde dans la programmation. Ça a été quand même assez incroyable. Il y a beaucoup de spectacles. Tu sais, comme je le disais, on commence avec Lisa Leblanc et Edith Butler. On a des gros spectacles party comme les Gars du Nord. On a des spectacles plus de musique classique. On a aussi la chance d'avoir Paul Piché cette année, qui est un de mes grands idoles. Et puis, je le disais dans le cadre d'une autre interview en rigolant, la semaine dernière, j'ai fait venir Paul Piché pour moi. Donc, je n'ai jamais vu cet artiste en spectacle et puis je suis bien contente de pouvoir assister au spectacle. Puis il y a Mathieu, qui est un artiste autochtone du Québec que j'aime beaucoup, beaucoup, qui va faire la première partie. Tu sais, à partir dans les gros noms, il y a Patrick Normand qui fait sa tournée d'adieu, sa dernière tournée de spectacle. Et puis, c'est un spectacle qu'on devait présenter en 2020 qui a été annulé et reporté. On retrouvera encore Sean Ferguson, George Langford des Îles-de-la-Madeleine, qui est un artiste absolument incroyable. Des spectacles de la Louisiane, dont Zachary Richard et Bruce Degrepon. D'ailleurs, on a une journée complète consacrée à la Louisiane. Le groupe La Patente. On va avoir un nouveau spectacle qu'on n'a pas annoncé, d'ailleurs, dans le communiqué, qui est Kit Louise et Mathias Gauguin, donc la petite famille de Kit Gauguin, qui vont nous faire un spectacle le 12 août. Maggie Savoie, Grégory Charles avec Chloé Beau en première partie. On a l'artiste de la Nouvelle-Écosse, Denzel Subban, qui va nous faire une soirée le 12 août à la Broquerie. Émilie Landry, un spectacle avec des ateliers de danse traditionnels avec des artistes de l'Île-du-Prince-Édouard menés par Karine Galland. Une soirée country avec Daniel Gauguin, Eurt Leblanc, Laurie Leblanc. On a aussi Damien Robitaille, qui a été la star des deux dernières années de la pandémie sur les réseaux sociaux, qui va venir nous faire un spectacle. Ce ne sait plus, le groupe La Trappe, le Winston Band, les Firefly, Dominique Dupuis, 1755, La Virée, Moyenne Rigue, En tout cas, ça ne finit plus. On a énormément de spectacles à présenter au public.
Il y en a pour tous les goûts. Combien de festivaliers vous attendez pour l'événement?
Écoute, il y a des soirées où on aura de 1000 à 2000 personnes dans le Carrefour de la Mer. Il y a des spectacles où c'est des petites salles à 250 places. Il y a des spectacles extérieurs où on peut avoir 1000 personnes. Mais là où on aura le plus de gens, c'est deux soirs. D'abord, il y a le feu d'artifice qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de personnes habituellement, mais aussi le Grand Tintamarre. Donc, le Grand Tintamarre, le 15 août à 18h, 15 000, on peut aller jusqu'à 20 000 personnes, ça dépend des années.
Bon, ben, c'est une belle fête qui s'annonce. Donc, on sera là pour encourager les artistes et participer à l'événement. Donc, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes, Carole. Et je rappelle que tu es responsable de la programmation. Et donc, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera peut-être pendant l'événement.
J'espère bien vous voir là, Sébastien.
Merci beaucoup, Carole.
Merci.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
De la musique à la littérature, on est tout culture à Point de vue aujourd'hui. On se déplace en Ontario maintenant pour vous parler d'une bande dessinée intitulée Éclatant. Éclatant qui met en vedette 5 jeunes francophones ontariens d'origines diverses, des espèces d'explorateurs des temps modernes qui traversent le temps et l'espace pour raconter l'histoire de la francophonie ontarienne. Cette bande dessinée est une idée originale de Buddy Ngoy. Elle a été écrite par Félix Saint-Denis de l'Écho d'un peuple et illustrée par Hicham Absa de Case et Bulle. Cette équipe de création a déjà produit d'ailleurs la BD à caractère éducatif, une autre BD intitulée « Le mystère des chutes rideaux, coup de cœur de l'histoire de la francophonie ottavienne ». Dans Éclatant, 5 jeunes partent donc à la rencontre de personnages fascinants qui les aident à écrire l'histoire, dont se passionne d'ailleurs Félix Saint-Denis, un visage incontournable du paysage franco-ontarien que notre journaliste Marie Hélès a rencontré.
Bonjour Félix.
Oui, bonjour Marie.
Parlez-moi un tout petit peu d'abord du BD Éclatant.
Ben, la bande dessinée Éclatant, c'est un beau projet. C'est une initiative de mon ami Buddy Ngoy, qui est propriétaire de Boxia Partage, qui est une compagnie de production de bande dessinée de fierté identitaire, de fierté culturelle. Buddy, c'est quelqu'un de très, très engagé. Il s'associe avec le réseau du patrimoine franco-ontarien. Ce sont eux les parrains, les porteurs du projet, les éditeurs. On a décidé de faire une bande dessinée dans laquelle on faisait le tour de l'histoire de l'Ontario français en 12 épisodes, mais vécu de façon très moderne en même temps. On se met dans la peau de 5 personnages modernes. Nos 5 jeunes personnages, nos jeunes explorateurs, sont plongés à travers le temps. Ils se retrouvent derrière les chutes rideaux. Tout à coup, oups, il y a un tunnel de temps. Ils partent à la mission. Ils cherchent la force dans l'histoire franco-ontarienne. Dans le fond, de là, de fil en aiguille, des fois seuls, des fois deux, des fois à trois, sont plongés. Ils revivent vraiment des aventures, des péripéties ou des moments charnières de notre histoire. Par exemple, quand les femmes arrivent à l'école Big, dans le temps du règlement 17, ce qu'on interdisait, qu'on enseigne, qu'on parle en français dans nos écoles, c'est la jeune Mika, dont le père est d'origine africaine, sa mère est d'origine haïtienne, elle a grandi à Toronto, Sudbury. Elle se retrouve plongée là, puis c'est elle qui donne l'idée, hey, si on sortait nos épingles de chapeau pour repousser les inspecteurs puis les policiers, dans le fond, ils contribuent à écrire l'histoire franco-ontarienne parce qu'ils ont des connaissances d'aujourd'hui, puis un autre regard aussi. C'est vraiment bien. Cette bande dessinée-là, ça va faire plaisir à tout le monde partout en province, jeunes et moins jeunes.
En parlant de bande dessinée, pourquoi vous avez choisi ce format?
C'est une initiative de Buddy Ngoy, justement, qui, lui, se spécialise depuis des années à faire de la bande dessinée. Moi, je suis le créateur en chef. J'ai la chance d'être le créateur en chef de l'Écho d'un peuple. Donc, ça fait des années, là, au-dessus de 20 ans, que j'ai la chance de raconter notre histoire en spectacle, en vidéo. C'est la première fois que j'ai la chance d'écrire, d'être le principal auteur d'une bande dessinée. Je suis vraiment content, même si je dessine un petit peu, c'est pas moi qui le fais. Je veux rendre un hommage à Hicham Absa. Hicham, évidemment, il habite maintenant chez nous ici au Canada, mais il est d'origine marocaine, superbe dessinateur. C'est sûr que la BD, ça, l'image vaut mille mots. Hein. Ça permet là justement de se promener à travers le temps, à travers l'espace. Puis on a eu recréé pour l'occasion plein de sites historiques qui sont importants. Je parlais tantôt de l'école Gig, mais on va retrouver par exemple des forts des Grands Lacs. On va se retrouver devant le fort William à Thunder Bay, le rocher du géant endormi. On se retrouve dans une mine à Copper Cliff, près de Sudbury, dans les premières mines qui ont mis les gens dans le nord, etc. Dans une auberge à Bytown, à Ottawa, avec Joe Montferrand. Ça permet vraiment de mettre des contextes, des images sur notre patrimoine, autant bâti, autrement dit sur les édifices, que sur l'habillement,
puis sur les personnages, mais encore une fois, avec une perspective jeunesse et moderne à travers les yeux de nos 5 jeunes explorateurs.
Pourquoi est-ce important de parler de la francophonie en Ontario?
La francophonie, c'est ce qui nous unit. On s'entend, regarde, c'est la 5e langue la plus populaire au monde, la 3e langue au niveau des affaires. On a la chance aussi d'accueillir de plus en plus de gens et de familles de partout à travers le monde qui viennent enrichir la francophonie en Ontario et dans l'ensemble du pays. Moi, j'appelle ça la francophonie. C'est clair, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, puis qu'on soit d'ici ou d'ailleurs. C'est important de connaître l'histoire, mais en même temps la culture, puis surtout ses valeurs. Et la bande dessinée Éclatant, ça célèbre des valeurs importantes, le courage, de partage, entre autres, qu'on a reçu en héritage des cultures autochtones, de respect de l'autre, de dépassement de soi. Donc, ce sont toutes des valeurs qui se retrouvent à travers la bande dessinée. C'est sûr que la bande dessinée Éclatant, on part de hier, du premier franco-ontarien des Signes brûlés, en passant par les explorations, ces grands lacs, la fille du roi, Madeleine de Roibon, etc. La première colonie permanente dans la région de Windsor, c'était Détroit-Windsor. On arrive à Bytown, dans le nord de l'Ontario, des mines, tout ça. Et, pas sur le règlement 17, mais on termine, justement, dans notre francophonie moderne. Depuis la création du drapeau avec la CESFO, les derniers ont vu la résistance en 2018, tous les mouvements qu'il y a eu pour sauver nos droits, dans le fond, l'Université d'Ontario français. Et finalement, on finit, on se retrouve à Toronto, qui est la ville la plus multiculturelle au monde.
Où est-ce qu'on peut acheter ce BD?
Initiative du Réseau du patrimoine franco-ontarien. Merci d'ailleurs à la Fondation Trillium qui nous permet, là, donne un gros coup de main financièrement pour produire cette bande dessinée-là. Donc, on peut placer une commande et il est en impression bientôt. On a fait le lancement pour annoncer la prévente. Entre autres, c'est un bijou pour les écoles. Sincèrement, il ne faut pas manquer ça. Donc, au Réseau du patrimoine franco-ontarien, le RPFO, on peut simplement trouver ça sur Internet facilement et on peut se l'acheter. D'ailleurs, il va avoir ce qu'on appelle un motion comic. Un motion comic, ce que c'est qu'on peut lire, on peut parcourir la bande dessinée, mais de façon vidéo. Ça a été lancé. Il va y avoir une version révisée qu'on va sortir le 25 septembre. Ça va être superbe. Ça va être gratuit également. Mais la version papier, elle est précieuse. Il y a plein d'anecdotes. Il faut dire aussi, Marie, qu'il y avait une première partie à la bande dessinée qui s'appelait « Ça sert de prélude ». Ça s'appelle « Le mystère des chutes de rideaux ». C'est avec des fonds d'Ottawa bilingue que c'était produit. C'est les mêmes 5 jeunes personnages dont moi, je me retrouve à être le guide. C'est Buddy qui avait décidé ça, la première version de la bande dessinée. Qui, en fait, la première partie, si on veut, qui sert de prélude. Moi, j'ai donné simplement un coup de main. C'est Buddy qui l'a écrit celle-là. On cherchait une des forces dans l'histoire franco-ontarienne d'Ottawa. Alors, on élargit le propos.
Périscope, notre clin d'œil sur l'actualité locale au pays. Marie Hillès nous apprend que la première école secondaire publique francophone d'Ottawa a 50 ans aujourd'hui. L'école Omer des Lauriers a souligné un demi-siècle d'histoire le 8 juin dernier. Pour l'occasion, Hamid Aïdouni, lequel travaille à l'école Omer des Lauriers depuis 5 ans, souligne à quel point il est important de soutenir l'éducation francophone en Ontario.
Plus nos écoles vont bien, plus nos écoles sont dynamiques, plus nos écoles accueillent un nombre d'élèves, mieux se porte la francophonie. Donc nous avons un devoir, quand on est dans le domaine de l'éducation, d'œuvrer pour la francophonie en Ontario.
L'école Omer des Lauriers comptait il y a 50 ans 488 élèves de la 9e à la 12e année. Elle en accueille aujourd'hui plus de 600 de la 7e à la 12e année. Du côté d'Halifax, notre journaliste Sébastien Beltrand nous parle du théâtre des Assimilés et de la pièce du ministère des Moindres Mystères, qui fait d'ailleurs un tabac. La pièce a été produite 1200 fois dans près de 200 villes. Et là, elle s'arrête à Halifax. C'est une espèce de pièce performance qui utilise le téléphone et le public pour résoudre des enquêtes cocasses. Olivier Blais, cofondateur du Théâtre des Assimilés, au micro de Sébastien Beltrand.
C'est une performance par téléphone où vous achetez un billet, que ce soit une personne seule ou un groupe ou une famille même, qui achète un billet et en gros qui va recevoir l'appel d'un inspecteur, un de nos acteurs, qui va en gros résoudre un mystère qui se passe chez vous. Et c'est préférablement un mystère un peu petit mais qui vous tracasse. Donc par exemple, la télécommande qui n'arrête pas de disparaître ou les aliments dans mon frigo qui pourrissent à une vitesse inimaginable. Et au cours d'à peu près une heure et sur à peu près 5 appels différents, l'acteur et donc l'inspecteur va tenter de résoudre le mystère et va tenter de trouver des indices dans votre propre vie pour créer une solution à ce mystère justement qui vous tracasse.
Ne ratez pas l'entrevue intégrale avec le Théâtre des Assimilés sur canada-info.ca. Les élèves de l'école secondaire Gabriel Dionne, située à Tête-à-la-Baleine au Québec, remportent le défi entrepreneurial pan-québécois Ose entreprendre. Chad Nadeau, Zoé Marcoux et Alicia Strickland ont réussi à se distinguer au volet national du concours avec leur projet de pizzeria Chalzo. Ils mettent la main sur le prix de la catégorie secondaire deuxième cycle.
En commençant la pizzeria, moi je pensais que ça allait juste être pour remplir le petit trou qui manquait dans le village. Ça m'a quand même choqué, mais c'était un bon choc.
Je pensais pas être aussi émue que je l'ai été, puis aussi heureuse. Quand j'ai entendu le nom de notre pizzeria, c'est qui les grands gagnants. Je me sens aussi très fière de à quel point on s'est rendu loin avec notre pizzeria au bout du monde.
Une éditrice franco-manitobaine publie contre vents et marées des auteurs francophones en contexte minoritaire, et ça lui réussit. Notre journaliste Aurélie Nana-Forson nous apprend que Vanessa Gaillard, directrice des éditions du Blé, était tout sourire d'apprendre que deux de ses ouvrages publiés en français ont été nommés pour les prix du livre du Manitoba, Manitoba Book Awards. Il s'agit de Manitobaine engagée de Lise Gaboury-Diallo et Michelle Smith, qui était en nomination pour le prix Alexander Kennedy Ibister dans la catégorie études et essais, mais l'œuvre Mont-Blanc Winnipeg Express de Seriam a raflé le prix littéraire Carol Shields. Écoutons Vanessa Gaillard.
On était déjà plutôt fiers d'en avoir deux livres sélectionnés, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas chaque année qu'on a des livres français, en français en tout cas. Donc on était déjà plutôt fier. Après, bon, bah, là, c'est la cerise sur le gâteau d'avoir reçu un prix.
La maison d'édition franco-manitobaine du Blé a été fondée à Saint-Boniface en 1974. Elle s'est donnée pour mission de publier des auteurs francophones de l'Ouest canadien et des textes inspirés par cette région.
Bonjour, ici Judy Desalliés au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Et on termine l'émission en vous parlant du village historique miniature de Plamondon en Alberta, qui a inauguré 6 nouvelles constructions dans ce qu'il appelle son mini-parc héritage. Ça s'est passé tout récemment lors de la fin de semaine franco organisée par Boréal FM en juin. Boréal, c'est une de nos radios partenaires et qui célébrait ses 10 ans de diffusion. Le mini-parc héritage qui a reproduit au quart de l'échelle une vingtaine de bâtiments historiques de Plamondon et de ses environs, les précisions de Vincent Lavoie.
Sylvia Côté, trésorière à la Société du mini-parc héritage de Plamondon, merci beaucoup de nous parler aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi l'histoire derrière le mini-parc héritage de Plamondon?
On a eu l'idée de faire le parc pour recréer la vie de nos pionniers. On a décidé, oh, ça sera peut-être une bonne idée, de faire des mini-réplicas de ces bâtisses-là originelles pour qu'ils servent l'histoire, notre histoire. En 2008, on l'a ouvert officiellement. Le parc, ça a pris forme. On continuait à bâtir des maisons. On l'a la première école, on a la blacksmith shop, on a les magasins, on a un boarding house, des garages. Je pense qu'on a l'entour d'une vingtaine de mini-buildings qui sont bâtis. Puis on continue, on a encore beaucoup d'autres à construire. On a fait un coin dans le parterre qui c'est pour les communautés voisines, comme il y a Charon, il y a Gourin, il y a Burnie, il y a Old Trail, il y a Avenir. Dans ce temps-là, chaque petite communauté avait leur école, puis le petit district qui administrait les autres mêmes. Et puis, éventuellement, ça s'est fait centraliser dans le village de Plamondon. C'est un projet qui est en vie, qui continue à vivre. On a encore beaucoup de choses à faire dans le mini-parc, mais on a un bon commencement.
Comment ça fonctionne lorsqu'on veut inaugurer de nouvelles bâtisses miniatures au village, au mini-parc héritage de Plamondon? Il doit quand même y avoir un bon travail de recherche là, dans des archives pour pouvoir recréer ça le plus fidèlement possible.
Ce qui est arrivé, c'est que quand on a célébré 100 ans, le village de Plamondon a célébré 100 ans, ils ont fait un livre qui a les histoires, puis des photos, puis c'est de là qu'on a pris notre matériel pour construire ces mini. Il y a ce livre-là, mais là, ils peuvent aller marcher dans le parc puis voir ces choses-là réellement en mini.
Et combien vous pensez avoir de petites structures, de petites maquettes à terme au mini-parc héritage de Plamondon? Parce que vous venez à peine de commencer, là.
Oui, on l'espère d'en avoir peut-être une trentaine. Il y a aussi dans les communautés voisines qu'on a encore des bâtisses qu'on n'a pas faites, comme Avenir avant une école. Et puis Old Trail et les autres, il y avait les Mink Ranchers, la Post Office, le Hall, la Vieille Hall. Il y a encore plusieurs bâtisses qu'on faut faire. C'est encore espérance qu'on va réussir à faire ça. C'est arrangé qu'on a des informations sur chaque bâtisse. Alors, les personnes peuvent faire un self-tour comme pour lire ce que chaque bâtiment sont. Tu peux voir notre projet comme quelque chose qui est très important pour notre histoire, comment c'était dans les jours de pionniers, comment leurs maisons sont abattues. C'est ça qu'on essaie de recréer pour le monde qui voit comment c'était dans le temps passé.
Sylvia Côté, trésorière à la Société du mini-parc héritage de Plamondon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ici Vincent Lavoie, à Plamondon.
Voilà qui met fin à cette autre édition de Point de vue. On remercie notre belle équipe de journalistes que sont Sébastien Beltran, Vincent Lavoie, Aurélie Nana-Forson, Pénélope Clermont et Marie Hillès. Merci à notre coordonnateur national Stéphane Bénard. Cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Ne ratez pas nos rendez-vous quotidiens de l'actualité locale sur canada-info.ca. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt.
90.3 FM.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne, qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de cette édition de Point de vue, on s'intéresse aux enjeux sociaux et on vous parle d'économie circulaire, de santé mentale et de banque alimentaire. On plonge au cœur du quotidien d'une immigrante récente qui vient à son tour donner un coup de pouce aux plus vulnérables, Catherine Biaya, facilitatrice en santé communautaire à Mount Carmel au Manitoba.
J'ai jamais vu une clinique avec tant de projets. Notre vision, c'est nous vous rencontrons où vous êtes, sans jugement. Si nous voulons une société durable et en santé, nous devons avoir des familles en santé durable. Et l'éducation, c'est la clé.
Au Québec, la ville minière de Fermont est au centre d'une étude sur l'économie circulaire dans un contexte nordique.
Si on est capable de mieux consommer, réduire notre empreinte sur l'environnement, bien, ça va tout simplement déboucher sur moins d'enfouissement, une meilleure valorisation, une meilleure utilisation et une réduction sur les ressources.
Direction Ottawa, où l'on part à la rencontre de Paulette, 71 ans, qui est bénévole dans une banque alimentaire.
Bien, moi, je suis une personne très active. J'aime ça, je suis dévouée, je suis active, je suis responsable et j'aime aller au-devant, puis ça me fait juste du bien, c'est du bonheur.
Et à notre chronique Périscope, on fait des clins d'œil à l'actualité locale au pays. Bienvenue à Point de vue.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, on fait un premier arrêt à la Mount Carmel Clinic au Manitoba, où nous attend Catherine Biaya, l'invitée de notre journaliste Aurélie Nana-Forson. Aurélie qui s'est intéressée au travail que fait la Mount Carmel Clinic, la première et plus ancienne clinique communautaire du Canada, et qui a, depuis sa fondation en 1926, su adapter ses services aux besoins changeants exprimés par sa communauté. Pour la petite histoire, cette clinique a été fondée par la communauté juive de Mount Carmel en 1926 pour accueillir à l'époque ceux qui fuyaient l'oppression en Europe. Et bien qu'initialement fondée par et pour la communauté juive, la Grande Dépression des années 30 conduit des personnes non juives à faire appel aux services de la clinique. Dès 1936, plus d'un tiers des clients de la clinique n'étaient plus d'origine juive. La Mount Carmel Clinic a au fil des décennies élargi le spectre de ses activités et services et dès 1940, elle met en place des programmes communautaires pour soutenir les nouveaux arrivants et les réfugiés de tous horizons, ainsi que les Métis et les gens issus des Premières Nations qui quittaient les réserves pour s'installer en ville. Aujourd'hui, la clinique continue de supporter la santé physique, mentale et économique de sa clientèle. Catherine Biaya est facilitatrice en santé communautaire à la Mount Carmel Clinic. Elle est aussi immigrante, originaire de la RDC, de la République démocratique, du Congo. De Saint-Boniface au Manitoba, Aurélie Nana-Forson est en compagnie de Catherine Biaya.
Comment ça va aujourd'hui, Catherine?
Ça va bien, merci.
Est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport au poste que vous occupez à Mount Carmel Clinic?
Bien sûr, j'ai commencé à travailler là-bas depuis 2010. Je suis arrivée en 2007 au Canada, sponsorisée par le gouvernement. Et puis je suis allée faire les études à Red River College. Et j'ai fait mon stage là-bas et puis j'ai été engagée. Depuis 2010, je suis là-bas. Mon premier poste là-bas, c'était comme Community Development. J'étais engagée par Mont Carmel, mais j'ai travaillé pour l'Immigration et Citoyenneté Canada. Et mon rôle était d'être un lien entre les francophones et les anglophones. Et aujourd'hui, je suis facilitatrice en santé communautaire, toujours financée par l'Immigration et Citoyenneté Canada. Maintenant, je ne suis plus seulement focalisée avec les francophones. Je suis avec tous les nouveaux arrivants de toute souche.
Donc, en plus d'être une facilitatrice, vous êtes aussi un peu une interprète?
Oui, je fais aussi beaucoup d'interprétariat.
Mm-hmm. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec Mount Carmel Clinic?
Leur approche, d'abord en 2009, j'ai été contactée pour être facilitée des différentes sessions. À l'époque, j'étais entraînée comme community-based educator et notre rôle était d'apprendre, par exemple, comment la gestion financière, comment élever les enfants dans une nouvelle société, comment prévenir la violence domestique et tout autre. Et on devrait faire la même session dans nos communautés, dans nos langues respectives. Et puis, je suis de la RDC. Je parle le swahili, je parle le lingala, je parle aussi le portugais. Donc, on allait faire... Et quand j'ai vu cette approche-là, c'était comme un capacity building. Je me suis dit, ça, c'est ce que je veux. Et quand je suis allée à l'école, la première chose, je fais d'abord mon stage ici, en vol, en 2010. Et puis, mon dernier stage, je l'ai fait au Mont-Carmel. Et au Mont-Carmel, je leur ai dit, écoutez, nous venons d'une société où on aime dialoguer, on aime parler, on n'aime pas lire. Tu viens avec un livre là-bas, je vais mettre ça dans les tiroirs. Mais quand tu viens avec une histoire, quand tu partages une histoire, ça, c'est fascinant et les gens comprennent facilement. Alors c'est comme ça qu'on a commencé le programme des sessions, comme on dit, des sessions communautaires. Bon, en anglais, on appelle ça « psycho-education ». Concernant tous les domaines qui régalent les nouveaux arrivants pour leur permettre de s'intégrer facilement dans la nouvelle société et dans nos langues. Par exemple, si je vais dans la communauté congolaise, je vais utiliser le lingala et le français. Si je vais dans une communauté érythréenne, j'aurai un interprète ou une interprète qui parle leur langue amharique ou bien tigrinya.
La clinique ne va pas seulement offrir des soins de santé, mais va également offrir des services de soutien.
Exactement. Donc, Mont-Carmel s'est vraiment diversifié. Il y a différents programmes que je n'aurai pas vraiment le temps d'aller en détail, mais c'est vraiment multidisciplinaire. Moi, je fais seulement partie de Community Service. Et notre programme spécialement est appelé Multiculturel Wellness Program. La clinique a plusieurs programmes. Nous avons Sage House qui s'occupe de femmes qui font le travail de sexe, pour avoir un lieu de support où quelqu'un peut leur parler, où ils peuvent avoir un bain chaud, faire des soins de santé, et puis avec des conseillères. Nous avons ACT. ACT s'occupe de programmes de sans-abri, et des gens le français est en train de me faire.
Qui ont des problèmes d'addiction.
D'addiction, finalement. Voilà, merci, des problèmes d'addiction reliés à la santé mentale. C'est comment est-ce qu'on peut leur trouver des logements, prendre leurs problèmes en main avec les travailleurs sociaux, les EI. Ben, nous avons aussi Madrin Project, où là, c'est vraiment un programme indigène, où on s'occupe de femmes, de jeunes filles qui sont mères, mais au même moment, ils ont des problèmes d'addiction et ils ont des enfants qui sont pris par le CFS, le service de la famille et de l'enfance. C'est vraiment, je n'ai jamais vu une clinique avec tant de projets. C'est vraiment, notre vision, c'est nous vous rencontrons où vous êtes, sans jugement. Et nous utilisons l'approche harm reduction. C'est-à-dire, nous savons que ce sont des choix qui peut-être ne sont volontairement pas d'un individu, mais qui sont liés avec la santé mentale et l'addiction. Mais comment est-ce que nous pouvons faire que leur choix soit accompagné d'une façon qui n'est pas dangereuse? Donc, c'est pourquoi au Mont-Carmel, les gens viennent prendre les pipes pour leurs besoins, les condoms et tout. Donc, nous rencontrons les gens là où ils sont, sans jugement. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs activités, mais moi, je suis principalement avec les nouveaux arrivants. Mais nouvellement, nous sommes en train... Mont-Carmel est en train d'être to be indigenized. Donc, aller comme dans le sens de comprendre et respecter les peuples autochtones. Alors, dans mon programme, il y a un programme qu'on appelle Bridging the Gap, donc où je mets ensemble les nouveaux arrivants et les peuples et les indigènes pour apprendre, comprendre quelles sont les choses qui sont similaires, parce que nous avons presque le même passé, la colonisation. Qu'est-ce qu'il y a des ressemblances Où est-ce qu'il y a la différence et comment est-ce que nous pouvons construire une communauté où on ne se juge pas, où il n'y a pas, où il n'y a pas de stéréotypes et surtout le manque d'informations, bien de fausses informations. Souvent, on pense que les indigènes, oh, ce sont des paresseux, ce sont drogue addicts, ce sont ça. Non. Mais qu'est-ce qu'en fait, quelle est l'histoire derrière ce comportement-là? Donc, c'est ce que je fais.
Et donc, du coup, quelle est la partie qui vous plaît le plus dans votre travail?
Oh, c'est quand je facilite l'éducation, surtout comment élever les enfants dans la nouvelle culture. Vous savez, nous venons d'une culture différente. Par exemple, moi-même, ma mère n'a pas eu le temps de communiquer comme il faut avec moi. Elle utilisait toujours la force, la violence physique. Et pour moi, c'était normal. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre qu'ici, si nous voulons une société durable et en santé, nous devons avoir des familles en santé durable. Et ça commence par apprendre. Et l'éducation, c'est la clé. Et je sais que quand je prends mon chapeau de pasteur, j'ai dit que mon peuple périt par manque de connaissances.
C'était Catherine Bayard au micro d'Aurélie Nana Forson.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJE. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On se dirige maintenant vers l'est du pays pour s'arrêter au Québec, là où on envisage à Fermont, dans le nord du Québec, de tirer le plein potentiel de l'économie circulaire. Une équipe de l'entreprise de Génie Conseil Englobe est sur place pour procéder à la caractérisation du flux des matières résiduelles dans cette ville minière québécoise. Selon Englobe, la ville de Fermont a en main tout ce qu'il lui faut pour envisager le développement et la mise en place de modèles d'entreprise d'économie circulaire. L'économie circulaire est un modèle économique qui a pour objectif d'optimiser la réutilisation des ressources qui autrement seraient destinées à l'enfouissement. C'est bien plus que de simplement recycler et de composter, ce qui constituerait déjà une avancée pour Fermont, qui ne fait aucun des deux. L'équipe d'Englobe doit, durant son séjour à Fermont, caractériser les flux de consommation de cette ville, qui est un cas unique de par son urbanisme, d'une part, sa relation très étroite aussi avec l'industrie minière, mais aussi en raison de son éloignement géographique, Fermont étant situé au nord du 49e parallèle. Notre journaliste Elisabeth Séguin est en compagnie de Jean-Luc Bugnon, chargé de projet pour la firme de Génie Conseil Englobe.
Jean-Luc Bugnon, bonjour.
Bonjour.
Fermont a été choisi comme communauté nordique pour cette étude-là. Qu'est-ce que vous êtes venu analyser, en fait, sur le terrain?
En fait, on vient faire une analyse de flux de matière qui vise à identifier des pistes d'économie circulaire. En fait, l'importation de tout ce qui rentre dans la communauté, qu'est-ce qu'on en fait à l'intérieur et voir comment qu'on peut optimiser l'utilisation, réduire les intrants qui font des pressions sur les ressources naturelles et éviter d'enfouir ou de jeter des matières qui sont encore tout à fait utilisables. L'économie circulaire se décrit en 12 stratégies. Celle qu'on connaît le plus, c'est celle où on prend la matière de quelqu'un qui est un rejet puis qu'on l'utilise pour en faire un nouveau produit. Ça, c'est l'économie circulaire, entre guillemets, là, qui est le plus connu, mais on parle également de dons, de partage, de réduction, de valorisation, de recyclage. Il y en a 12 des stratégies. Donc, on vient étudier tout ça. Évidemment, on est dans un contexte minier, dans un contexte très éloigné, ce qui fait en sorte que le Fermont a des enjeux qui sont très, très différents des autres villes. Mais qui ressemble à d'autres communautés comme au Nunavik ou bien en Baie James ou même sur la Basse-Côte-Nord. C'est suite à un appel de candidature qu'on a communiqué avec tous les grands centres de la Côte-Nord, là, Fermont entre autres, mais il y avait Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, toutes les communautés de la Côte-Nord, puis Fermont a levé la main. Et donc, on est arrivé, puis il y avait tellement de candidatures qu'on a fait une sélection parmi les candidatures. On trouvait que la ville de Fermont était la mieux positionnée pour exprimer le contexte minier associé à une municipalité. Mais il y en avait d'autres. On peut prendre l'exemple de Matagami également, mm-hmm. là, qui est un peu du même genre.
Je crois comprendre que c'est la première fois qu'une étude de la sorte qui est réalisée en contexte nordique.
Oui, exactement. Il y a eu plusieurs études d'analyse de flux de matière sur des grands groupes. Puis là, si on va dans la littérature, on va trouver Paris, Bordeaux, le Québec en entier pour le cuivre, par exemple. Mais dans un contexte nordique très éloigné comme celui-là, c'est la première fois qu'il y a une vaste étude avec 7 communautés, là, en fait 6 communautés plus une minière.
C'est quoi la pertinence de, justement, étudier le terrain des communautés nordiques qui sont plus petites?
Mais en fait, vous avez un contexte qui fait que toute la gestion des matières résiduelles. Les matières résiduelles, c'est nos déchets, là. Ce qui sort du tri, ce qu'on valorise comme le compost et tout ce qu'on enfouit. Ça, c'est vos matières résiduelles. Le contexte de Fermont, l'éloignement, la distance qui est immense, fait en sorte que la plupart des matières n'ont pas de débouchés. Mais si on est capable de mieux consommer, réduire notre empreinte sur l'environnement, bien, ça va tout simplement déboucher sur moins d'enfouissement, une meilleure valorisation, une meilleure utilisation puis une réduction sur les ressources. On parle du compostage, mais vous avez des immenses consommateurs de compost qui sont à vos portes, à la porte de Fermont. La plupart d'entre vous travaillez dans une des deux grandes entreprises. L'industrie minière doit remettre en état, remettre en production tous les parcs à résidus miniers, tous les parcs à stériles miniers par une végétalisation qui est pérenne, donc qui dure dans le temps. Et la production de compost, la quantité de palettes qui peut rentrer dans la ville de Fermont, tout ça pourrait être utilisé pour justement favoriser la végétalisation et revoir, plutôt que des résidus miniers, bien, qu'on puisse y voir une forêt, peut-être même y faire de la culture.
Là. Et là, maintenant, vous êtes ici à Fermont pour faire ces études-là. Vous avez fait des analyses de flux de matière, comme vous l'avez appelé. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait exactement sur le terrain là, depuis votre arrivée?
Ça a débuté bien avant notre arrivée. Là. On a envoyé une série de questionnaires pour les commerces, pour les industries, puis pour les institutions, écoles, hôpitaux, même la ville de Fermont a été sollicitée. Puis on a posé des questions sur savoir qu'est-ce que vous avez comme produits importés. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de consommation de produits pétroliers, mais il y a également de la nourriture, il y a de la papeterie, il y a toutes sortes de choses qui sont tous livrés approximativement, là, vraiment tous sur palette, là, mm-hmm. sur camion. Donc, on a posé des questions aux commerçants avant notre arrivée. Puis là, maintenant, depuis une semaine et demie à peu près, on est à poser les questions directement en personne à ces gens-là. On a rencontré plusieurs commerçants qui sont très, très ouverts à partager ça. Ils se sentent tous interpellés, soit qu'ils veulent faire mieux, soit qu'ils se disent que c'est tellement le chaos, la gestion des matières résiduelles, qu'on ne peut pas rien faire que de s'améliorer. Donc, ils sont très, très positifs. Puis on est vraiment très heureux là, de l'accueil là, qu'on a eu là.
Et sinon, vos constats sur le terrain en ce moment, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous voyez, là? Qu'est-ce que vous remarquez qu'on a de particulier dans notre flux de matière ici?
Des palettes.
C'est vraiment ça? On reste là-dessus, il n'y a rien d'autre?
Non, il y a beaucoup d'autres choses. Mais les palettes se distinguent des autres endroits qu'on pourrait faire plus au sud. La plupart des palettes ont une consigne pour un retour. Or, il y en a peu qui retournent aux producteurs, ce qui fait en sorte qu'ils restent ici, soit qu'elles sont cassées, soit qu'elles sont distribuées à des gens. Il y a des gens qui reprennent des palettes, c'est de la réutilisation, ce qui rentre dans l'économie circulaire en passant. Mais il y en a beaucoup qui se ramassent dans le lieu d'enfouissement directement, sans avoir été valorisée, sans avoir été remis en circulation alors qu'elle aurait pu l'être. Vous utilisez exactement les mêmes choses que les gens plus au sud ont, mais vous les utilisez en très grande quantité. Bien, il y a beaucoup de gens qui sont ici avec peu de notions d'environnement, puis le contexte où il n'y a pas de recyclage, rien. C'est difficile pour d'avoir une motivation là, d'aller travailler fort, mais on a des exemples là, extraordinaires là, comme Pousse Partout qui utilise absolument tout c'est une entreprise zéro déchet. Là. Donc, il y a moyen d'y arriver. Ça prend la flamme, la volonté et c'est ça qu'on ne sent pas partout Mais il y a vraiment des beaux exemples là, d'économie circulaire puis de volonté de faire en sorte que ça aille mieux. Là. On a encore d'autres communautés à visiter, entre autres Chapais, Mistissini dans Baie James, puis Inukjuak dans le Nunavik. Et vers la fin de l'été, là, on va compiler tout ça pour faire un rapport qui va être remis à Recyc-Québec. Parce qu'il faut dire que ce projet-là est complètement financé par le gouvernement. Recyc-Québec, avec son partenaire, le ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie, ainsi que la Société du Plan Nord, ont financé le projet. Donc, ça coûte rien. En fait, on espère rendre public le rapport final qui va être déposé sur le site de Recyc-Québec à l'hiver 2023.
Au plaisir de se reparler, M. Bignon.
Merci beaucoup. Au revoir.
Périscope, notre clin d'œil sur l'actualité locale au pays. On fait notre pique-assiette pour voir ce qui se passe à travers le pays. La ville d'Edmonton a la mine basse depuis que sa candidature n'a pas été retenue pour accueillir la Coupe du monde de soccer en 2026, ce qui n'est pas le cas des villes canadiennes de Toronto et de Vancouver. Alors Edmonton n'a pas su convaincre les autorités de la FIFA du bien fondé de ses capacités. Notre journaliste Vincent Savard.
Visiblement, on était très, très déçus ici à Edmonton. Même le maire d'Edmonton, Amarjit Sohi, qui était sur place au Commonwealth Stadium pour l'annonce des villes.
Le prix d'excellence Louis E. Deveau, décerné par l'Université de Sainte-Anne, a été attribué au réseau Santé Nouvelle-Écosse pour les efforts qu'il déploie pour offrir des soins de santé en français à tous les néo-écossais. Pierre Roignier, directeur général du réseau Santé Nouvelle-Écosse.
C'est vraiment comment faire que pour nos communautés acadiennes et francophones, qu'elles puissent avoir le même accès à des services de santé que n'importe quel autre néo-écossais. Quand on se fait soigner, il y a plein d'enjeux qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Un de ces enjeux majeurs, c'est la langue. Et on sait à quel point la langue a une importance particulière quand on parle d'enjeux de santé. Comment on peut communiquer avec un professionnel de santé? Et ça passe par la langue parlée. Donc c'est vraiment notre vision, c'est vraiment de s'interroger sur comment on peut améliorer l'accès aux soins de santé en français.
Une de nos radios partenaires dans les Maritimes a une nouvelle directrice générale. Valérie Kendall assurera la direction de CKJM à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. Cette dernière remplace Angus Lefort, qui a tenu le fort de CKJM depuis ses tout débuts en 1995.
Moi, j'ai grandi, je me levais pour déjeuner avant d'aller à l'école, puis on écoutait la radio en déjeunant, puis c'est de même que j'aimerais voir ça dans le futur aussi. C'est une énorme force pour la radio qu'on est là depuis 25 ans. On a toutes sortes de bénévoles qu'on peut. Je dirais la communauté aussi. Les dernières années, on a des nouveaux bénévoles qui font des émissions, qui viennent jouer de la musique et toutes sortes de faire. Ça, c'est une grosse force qu'on a, que la communauté vraiment être là avec nous autres dans le succès de la radio. Même les liens, je dirais, aussi avec l'école, mm-hmm. avec l'école de musique Graveston, la Société Saint-Pierre, les associations acadiennes et francophones de la province aussi. C'est toutes des grandes forces pour le succès de la radio.
Et on fêtera le 15 août prochain le défilé des stars acadiennes avec le grand concert du Havre au Chai. Ça se passe pour souligner la fête nationale de l'Acadie au quai Dennis Point. Ce concert gratuit est organisé par la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse et dont Luc Déon est le directeur général.
On a vraiment des noms les plus connus dans l'Acadie, puis on voulait certainement inclure des artistes plus de la Nouvelle-Écosse. Ça fait qu'on a un petit Billy Rowe qui est comme notre artiste pour le moment qui est comme le plus connu au Canada. On a aussi Sluice qui vient de la région de Tarnanbas, ça fait qu'il fallait absolument l'avoir. À part de ça, beaucoup d'artistes du Nouveau-Brunswick, les Hey Babies, Edith Butler, Caroline Savoie, Laurie Leblanc, Daniel Légère, Radio qui vient en partie de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Et on a un beau petit groupe de l'île du Prince-Édouard aussi qui vient d'Emmanuel Leblanc, Pascal Muse, Tim Chasson et Jake Sheridan.
Eh bien, vous le savez comme moi, l'inflation est sur toutes les lèvres par les temps qui courent et l'augmentation du coût de la vie frappe de plein fouet les familles et les plus démunis qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. À Ottawa, la Banque alimentaire Partage Vanier est sur la ligne de front. Madame Paulette y est bénévole depuis 3 ans. Elle est au micro de Marie Hillès à Ottawa pour nous parler de son quotidien et de ce qui la motive.
Il est 10 heures du matin quand je cogne à la porte de Partage Vanier, la banque alimentaire située avenue Marié à Ottawa. Une bénévole souriante m'ouvre la porte et m'accueille chaleureusement. Les boîtes sont déjà préparées pour les venants du jour. Sur les étagères, des pâtes, des conserves, des bouteilles d'eau, mais aussi des produits hygiéniques. À l'accueil, sur une feuille, le nom de ceux et celles qui viennent récupérer leur commande. Paulette, 71 ans, est bénévole à la banque alimentaire depuis 3 ans.
Ben moi, je trouve que ça me tient occupée, ça me tient, ça me fait bouger, puis ça me fait rencontrer aussi des gens super. Puis je sais que c'est important aussi, la communauté, les gens, ils en ont besoin. Fait que si moi, je peux faire un petit peu une différence pour les aider à leur donner qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'ils cherchent, ça me fait tellement plaisir.
Elle travaille 2 demi-journées par semaine, 6 heures par jour. Elle me parle un peu de l'ambiance dans l'équipe et aussi de son quotidien.
Moi, je trouve ça super. Moi, je m'arrange avec tout le monde. Fait que j'ai pas à plaindre. Il y a certaines journées, on est peut-être 4, 5. 2 dans la cuisine et 3 en avant qui font différentes tâches. Moi, ici, je m'occupe à organiser, à préparer les légumes et les fruits pour les gens qui ont déjà fait des rendez-vous.
Nous discutons aussi de l'intégration d'une nouvelle personne dans l'équipe et à quoi s'attendre quand on vient travailler à Partage Vanier.
C'est d'essayer de chercher, voir vraiment qu'est-ce qui s'attend comme travail de bénévole. Puis on part de là, puis tranquillement, on les forme, on s'habitue au groupe. Disons que quelqu'un qui a la mobilité ou qui peut bouger, ou il y a certaines choses qu'il faut lever. Ce sont des petites choses, des fois, qu'une personne doit s'attendre à faire des petites tâches connexes ou des petites tâches. Peut-être que c'est pas facile, mais avec l'entraide de d'autres bénévoles, on y arrive.
Être bénévole, c'est certes donner son temps, son énergie, mais c'est aussi bénéfique pour tous, pas uniquement pour ceux qui utilisent le programme.
Mais moi, je suis une personne très active. J'aime ça, je suis dévouée, je suis active, je suis responsable. Et j'aime aller au-devant, puis ça me fait juste du bien, c'est du bonheur.
La Banque alimentaire Partage Vanier, c'est le travail de toute une communauté qui s'unit pour faire une différence. Pour devenir bénévole, il suffit de remplir un formulaire sur le site du Centre communautaire Vanier. Paulette et les autres vous accueilleront avec un grand sourire.
Vous trouverez aussi sur le site de canada-info.ca une entrevue avec Jean-Michel Rousseau, coordonnateur de Partage Vanier. Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On remercie toute l'équipe, Marie Hillès, Aurélie Nana-Forson, Daniel Aucoin, Elisabeth Séguin, Sébastien Beltran, notre coordonnateur national Stéphane Bénard, ici Boris Chassagne à l'animation. On vous souligne que Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Vous pouvez nous suivre aussi sur canada-info.ca, canada-info.ca. Il y a une foule de sujets qui vous y attendent. Suivez-nous aussi sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. Voilà, à bientôt. Merci.
following is a previously broadcast program.